Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu et je vous invite à trouver dans vos Bibles Jean chapitre 6. Nous allons enfin terminer le chapitre 6 aujourd'hui. Enfin, c'est un long chapitre, donc ce n'est pas trop grave si on prend du temps à terminer. Donc Jean chapitre 6 et les versets 60 à 71. Jean chapitre 6, versets 60 jusqu'à la fin du chapitre. En fait, moi je vais lire à partir du verset 53, mais sur l'écran, il y a à partir du verset 60. Et pour la parole de Dieu, je vous invite à vous lever. Jean 6, 53. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui ne mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Verset 60. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller, ou littéralement de marcher, avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru. Et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Prions. Notre Père, ton Fils, nous a dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous reconnaissons donc que la chair ne sert de rien. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous ne pouvons rien comprendre, saisir, croire, vivre par nous-mêmes. Ce qui serait tragique si nous étions seuls. Puisque nous avons ici les paroles de ton Fils, qui sont esprit et vie. Mais nous te prions alors pour la gloire éternelle de ton nom, de nous remplir de ton esprit qui vivifie. Que ton Saint-Esprit nous rafraîchit, nous fortifie, nous donne de vivre pour toi. Et pour ceux ici présents ce matin qui ne marcheraient pas avec le Seigneur, notre Père, donne-leur la vie. C'est ce que nous te prions. Au nom puissant de ton Fils, le Saint de Dieu. Amen. Veuillez reprendre place. Comme l'a dit le prédicateur dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Dans la vie, il y a des moments différents. Prenons même dans l'exemple d'une campagne électorale. Il y a un moment où l'on veut juste savoir qui est ce candidat, puis on veut savoir quelles sont ses idées, puis comment ferait-il dans un débat contre tel ou tel, comment il répond à telle ou telle question, comment réagit-il à telle ou telle situation ou telle ou telle crise. Et à la fin de tout ça, quelle décision prendrais-je? Il y a des moments différents dans les récits que nous présentent les évangiles du ministère de Jésus. Il y a des parties où les auteurs nous expliquent qui est Jésus, d'autres moments où il fait des miracles, d'autres où il prêche, où il enseigne, d'autres où il doit débattre avec d'autres. Bien évidemment, il y a le moment clé de sa mort et sa résurrection. Et au cours de route, il y a parfois des moments où il faut décider. Et on est arrivé à un de ces moments ce matin, à la fin de ce sixième chapitre. On voit bien sûr des moments de décision tout au long de la Bible. Tout au début, Adam dans le jardin, qui a d'un côté la promesse et le commandement de Dieu, et de l'autre la tentation du serpent. Un choix. À la fin du livre de Josué, on voit Josué qui explique le choix devant le peuple d'Israël. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà de la fleuve, ou du fleuve, ou des dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et tout comme avec ces choix-là, il s'agit d'un choix entre la vie et la mort ici aussi. Dans Jean chapitre 6. Le choix dont il est question ici est celui d'être disciple de Jésus-Christ ou pas. De marcher avec Jésus ou pas. Et avec cette question, la neutralité n'est pas une option. On croit en lui ou on ne croit pas en lui. On marche avec lui ou on ne marche pas avec lui. On vit ou on meurt. On ne peut pas dire « Oui, je ne marche pas avec lui, mais je suis abonné à son podcast. » Ou « Je ne marche pas avec lui, mais j'ai quelques-uns de ses bouquins qui m'ont bien plu. Je prends certains de ses principes comme inspiration. J'aime bien certaines phrases qu'il a dites. Je les ai affichées sur les murs de mon appart. » Non, ne pas marcher avec Jésus égale ne pas marcher avec Jésus. Et qui dit ne pas marcher avec Jésus dit mourir. Voici le message que Jean nous présente ce matin. Voilà ce qui est en jeu ici. Donc un moment plutôt important dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Mais il est important de se rappeler comment on est arrivé ici. Et il est intéressant aussi de comparer ce que fait Jean ici avec les quatre évangiles, avec les trois autres. Parce que chacun des quatre évangiles présente un moment décisif comme celui-ci, suite au récit du miracle de la multiplication des pains. Il semble que notre façon de comprendre le sens de ce miracle-là en particulier est vraiment une des choses qui révèle notre compréhension de l'identité et de la mission de Jésus. Et c'est assez impressionnant, en fait, de se rendre compte qu'il y avait très peu qui ont compris le sens. D'habitude, si on veut présenter une personne ou un mouvement comme ayant un certain niveau de réussite ou d'importance, comment on fait? C'est avec les chiffres, n'est-ce pas? On dit qu'on a eu tant de personnes engagées la première année et puis on a pu doubler, tripler chaque année depuis. Et ça fait déjà 5 ans, donc ça va très bien. Et on est tous très impressionnés par ça. Mais ici, au début du chapitre 6, on avait une foule avec 5000 hommes. Ça veut dire qu'il y avait des femmes et des enfants en plus, probablement. Donc, jusqu'à 5000 familles, peut-être. Donc, on n'a pas le chiffre total, on a juste le chiffre des hommes. Donc, on a entre 5000 et quelques dizaines de milliers de personnes au début du chapitre qui veut suivre Jésus. Et on en est où à la fin du chapitre? 12. Pas 12 000, 12. 12 personnes, dont une est en fait un sale type. Et pourquoi tant de départ? Parce qu'ils trouvaient l'enseignement de Jésus trop dur. Rappelons-nous de cet enseignement qu'ils ont trouvé si dur. Jésus a compris que pour la plupart de ces personnes qui l'ont suivi, il voulait juste quelqu'un qui pourrait reproduire le genre de miracle qu'ils ont vécu au bord du lac. Ils veulent quelqu'un qui pourrait leur donner à manger, gérer leurs soucis temporels. Ils n'avaient pas saisi qu'il s'agissait d'un signe, qu'il fallait donc comprendre ce que signifiait ce signe. Et le sens de ce signe, c'était que Jésus lui-même est le pain de vie, le vrai pain de vie, qui est descendu du ciel pour nourrir tous ceux qui viennent à lui. Et donc il a utilisé ce langage graphique, croquant, pour expliquer que ça veut dire de croire en Jésus. Il a dit « Mangez-moi, mangez ma chair, buvez mon sang. » Ce n'était pas un commandement littéral, physique, mais un appel à accepter que si je veux vivre, il faut que Jésus meure. Il faut qu'il soit sacrifié pour moi. Il faut que sa chair et son sang soient séparés l'un de l'autre. Que sa chair soit mise sur l'autel. Que son sang soit versé. Le sacrifice dont j'ai besoin, ce n'est pas un animal. C'est Jésus-Christ lui-même. Le fait de manger Jésus, donc, c'est profiter de sa mort. Recevoir la vie grâce à sa mort. Comme j'ai dit la semaine dernière, la foi en Jésus doit avoir des dents pour mordre, une langue pour goûter, une gorge pour avaler et un estomac pour digérer. C'est ça la foi en lui, une vraie dépendance. J'ai découvert cette semaine que le père d'église Tertullien, un pasteur berbère du 2e siècle et 3e siècle, il a dit d'une manière similaire et bien sûr bien meilleure que moi, donc je cite Tertullien, « Nous devrions le désirer afin d'avoir la vie. Nous devrions donc le dévorer avec nos oreilles, ruminer sur lui avec nos pensées et le digérer par la foi. » L'appel de Jésus ici, c'est de dire avec Horace Ponard que j'ai cité la semaine dernière, « C'est sur une vie que je n'ai pas vécue et sur une mort autre que la mienne. » que je mise toute mon éternité. Et tandis que les paroles qu'on a étudiées la dernière fois étaient pour les juifs, donc c'est-à-dire les leaders religieux de l'époque, donc pas ses meilleurs amis, maintenant on regarde la réaction des disciples de Jésus, ceux qui voulaient le suivre. Il ne s'agit pas juste des 12, parce qu'on voit que le 12, c'est un groupe que distingue Jean à la fin. On a ici un groupe beaucoup plus large de personnes qui aimaient Jésus, qui voyaient qu'il était quelqu'un d'impressionnant, quelqu'un d'important, qui aimait bien les choses qu'il disait, pour la plupart en tout cas, jusqu'à ce moment-là. Et ils aimaient surtout les choses qu'il faisait, les miracles, son impact sur la vie des gens. C'était leur maître. Ils étaient tous très impressionnés par Jésus. Et avant ce moment-là, ils n'avaient que des choses positives à dire à son sujet. Ils étaient prêts à marcher avec lui, de le suivre sur les voyages, vivre dans cette communauté de disciples qui marchaient de ville en ville, et tout ça pour Jésus, et pour apprendre ce qu'il voulait dire. Mais regardons ce qui se passe maintenant, au verset 60. Ses disciples trouve que c'est trop dur. Pas trop compliqué ou difficile à comprendre, sinon ils auraient pu poser une question et ça va. C'est pas qu'ils n'étaient pas capables de comprendre, mais plutôt qu'ils n'étaient pas prêts à accepter. C'était trop dur dans ce sens-là. Comme Jean Calvin note ici, la dureté n'était pas dans le serment de Jésus, mais plutôt dans leur cœur. Et donc eux aussi, comme les Juifs avant, ils murmurent. Et Jean nous donne encore une fois au verset 61 et 64 un aperçu de cette connaissance prophétique de Jésus. Il savait très bien ce qu'il pensait. Et donc il leur pose la question, cela vous scandalise? Et puis il pose la... c'est la moitié d'une question. Et on n'a pas toute la phrase. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Il ne termine pas là, donc il n'explique pas forcément la logique. Et donc dans les commentaires, on trouve plein d'interprétations différentes. Mais il me semble que le lien est celui-ci. C'est comme si Jésus dit, je vous ai parlé de ma descente, je suis le pain descendu du ciel que vous devez manger. Et l'enseignement que je vous ai donné sur ma descente vous scandalise. Parce que je dois aller jusqu'à la croix pour vous. Mais après ma descente, il y aura mon ascension, qui sera la preuve que je disais la vérité. Que feriez-vous alors? L'histoire de la bonne nouvelle de Jésus-Christ a deux grandes parties, la descente et l'ascension, l'humiliation et l'exaltation. Il a parlé de sa descente, et s'il prouvait la vérité de ses propos en complétant tout ce qu'il allait faire, et s'il retournait auprès du Père, on pourrait résumer ainsi, ça vous scandalise? Et si c'était vrai quand même? Si j'allais à un médecin, il me dit, vous avez un cancer, vous avez des cellules en vous qui vous font beaucoup de mal et qui sont très très dangereux. Je pourrais dire, comment vous pouvez oser dire de telles choses au sujet de mon corps? J'aime bien mon corps et vous dites qu'il y a des cellules dans mon corps qui sont mal. Ça me scandalise. Je dis, oui, mais il y en a et il faut mettre du poison dans votre corps, plein de produits chimiques pour vous guérir et ça va faire du mal et ça va être difficile et je ne peux rien garantir et je peux être scandalisé. Mais ça n'a rien à voir. Parce que la question c'est, et si c'est vrai ? Verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, vos façons de penser et de raisonner sont humaines, limitées, de la chair. Il faut recevoir la parole de Dieu en tant que telle. C'est l'esprit qui donne la vie. Et mes paroles sont des paroles divines par lesquelles l'esprit donne la vie. Ce qu'il faut faire avec mes paroles, ce n'est pas de les mesurer contre vos désirs, vos attentes, vos sensibilités, mais plutôt de les recevoir par la foi pour recevoir la vie par l'esprit. Et pourtant, je sais que vous ne voulez pas faire cela, parce que le Père ne vous a pas fait ce don d'écouter vraiment ce que je dis et de saisir mes paroles et de les croire. Verset 65. Il revient à ce sujet de la souveraineté de Dieu en toutes choses, y compris notre foi, notre salut. Et pourtant, les auditeurs portent aussi la responsabilité. Il n'y aura jamais quelqu'un qui dira « Oui, j'ai voulu croire, mais le Père ne m'a pas fait ce don de croire. » Si vous voulez savoir si le Père vous a donné de croire, tout ce qu'il faut faire, c'est prendre ce pas de croire. Mais la réponse de tous ses disciples, c'est de se retirer en arrière. Verset 66. Et puis, on a une des phrases, je dirais une des phrases les plus tragiques dans toute la Bible. Une des phrases les plus tragiques qu'on pourrait attribuer à quelqu'un. Ils cessèrent de marcher avec lui. Ils cessèrent de marcher avec Jésus. Voilà Jésus dont les paroles sont esprit et vie. Jésus qui vient de se présenter comme le sacrifice venu du ciel pour les sauver, qui était prêt à se sacrifier pour eux. Jésus qui vient pour leur proposer la vie éternelle auprès de lui, avec le Père. Jésus qui propose de leur donner le Saint-Esprit, lui-même. Et ils décident de ne plus marcher avec lui, parce que c'était trop choquant. Ils étaient même trop scandalisés pour se poser la question « Et si c'était vrai pourtant ?» La doctrine de la rédemption que Jésus-Christ a accomplie a toujours scandalisé des gens au travers des siècles. Cet enseignement que Jésus-Christ a dû souffrir la punition, le jugement que je mérite, que vous méritez, pour que nous puissions vivre. Au début du XXe siècle, le théologien américain Gresham Machen, il a écrit un livre très important qui a eu beaucoup d'influence, Le christianisme et le libéralisme. Il avait un courant libéral très fort dans son église, et libéral pas dans le sens politique, mais libéralisme, en gros, c'est tout ce qui veut se débarrasser de tout élément où on parle de ce qui est surnaturel, de toute mention de miracle, etc. Et parler de la Bible comme une œuvre humaine. Et Machen voulait démontrer alors, que le libéralisme est tout à fait une autre religion. Il ne s'agit pas d'une filiale du christianisme. Ce n'est pas juste un groupe chrétien parmi d'autres. C'est tout à fait une autre religion. Et donc il écrit le christianisme et le libéralisme. Et dans ce livre, il a écrit, je cite, « Il est notre sauveur, non pas parce qu'il nous a inspiré la même sorte de vie qu'il a vécue, mais parce qu'il a pris sur lui l'épouvantable culpabilité de nos péchés. Il a porté à notre place sur la croix. Non pas parce qu'il nous a inspiré à vivre une certaine genre de vie, mais parce qu'il a pris sur lui la culpabilité de nos péchés et l'a porté à notre place sur la croix. C'est ça l'idée qui scandalisait ses disciples. C'est une idée qui scandalise beaucoup aujourd'hui. Mais la question qu'il faut se poser, bien sûr, ce n'est pas « qu'est-ce que j'en pense ?» mais « est-ce vrai ?» Et si c'est vrai, serais-je si fou de croire que mon avis serait pertinent à ce point-là? Si le Dieu de l'univers me dit que je suis coupable devant lui, et c'est lui le juge, et s'il me dit que je mérite la mort éternelle, la séparation éternelle de lui, que je mérite son jugement parce que je l'ai rejeté, mais que dans sa grâce et sa miséricorde, il propose en la personne de son Fils même un remplaçant, un agneau qui porte mes péchés et qui a subi ce jugement à ma place, et que je peux recevoir ce don uniquement par la foi, il suffit juste de manger. Ben oui, il faut que je reconnaisse mon profond besoin de cela. Mais ce serait la folie totale de rejeter parce que j'aime pas l'idée, n'est-ce pas? Et pourtant, ils cessèrent de marcher avec lui. Le fait de rejeter ce point central, essentiel, c'est la même chose que de rejeter tout ce qu'a dit Jésus. On ne peut pas prendre tout le reste et ignorer ce point central. Ils ont rejeté son sacrifice pour eux. Ils ont rejeté tout. Et puis, il n'en restait que 12. Et nous avons ici cette merveilleuse confession de Simon-Pierre. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, les trois autres évangiles nous présentent aussi un moment de décision, un moment clé dans le récit, où il y a une confession de foi suite au miracle de la multiplication des pains. Et dans les trois autres, les trois évangiles synoptiques qui suivent plus ou moins la même histoire, Jean est très différent dans les récits qu'il a choisi d'inclure. C'est presque comme s'il remplissait quelques trous. Dans les trois autres, c'est le moment où Jésus demande « Qui suis-je selon les autres ?» et ils sont à Césarée. Et puis il dit « Et que diriez-vous ?» Et la confession donnée par Simon-Pierre aussi, il se fait un peu la porte-parole, il dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » C'était ça la confession dans les synoptiques, mais ici Jean présente un autre moment, ici on est à Galilée, mais il y a des parallèles très intéressants. Dans les deux cas, c'est Simon-Pierre qui donne la confession. Et dans les deux cas, à la fin de la conversation, Jésus compare un de ses disciples à Satan ou à un diable. Dans les trois autres, c'est Pierre que Jésus appelle Satan, parce que lui, il dit en réponse aux prophéties de Jésus de sa propre mort, Pierre dit « Non, tu ne mourras pas, il ne faut pas dire ça. » Jésus dit « Arrière de moi, Satan. » Et là, Jésus voulait dire que rien ne devrait l'empêcher d'aller à la croix. Tout discours comme quoi il pourrait l'éviter, c'est une tentation à rejeter comme s'il venait de Satan lui-même. Par contre, ici, ce n'est pas celui qui veut l'empêcher d'aller à la croix qui est comparé à Satan, mais plutôt celui qui va assurer qu'il ira à la croix. C'est Judas qui va le trahir. Oui, c'était le plan de Dieu, c'est le projet, et pourtant, dans sa providence, c'est par le péché et l'injustice qu'il est amené à la croix. Et Judas est celui qui l'assurera. C'est lui qui est rempli de mal. On voit cette même tension dans l'Idée des Actes, dans la prédication de Pierre, où il dit « c'était le projet de Dieu qu'il aille, mais c'était à cause de vos péchés qu'il est allé. » Et donc les deux sont vrais. C'était grâce à Dieu qu'il est allé, mais vous en êtes coupables vous-même. Et on y voit ici un avertissement. Non pas pour le monde, non pas pour les disciples moyennement engagés, mais pour le reste, pour les 12. Il y a une sorte de dureté de cœur qui rejette Jésus ouvertement et qui cesse de marcher avec Jésus. Mais il y a aussi une sorte de dureté de cœur qui reste tout au centre de la vie de l'Église. Les histoires de personnes, y compris des anciens et des pasteurs, ou même surtout des anciens et des pasteurs, malheureusement, qui restent très actives dans la vie de l'Église, tout en menant une double vie. Ces histoires sont tragiquement nombreuses, et ça sert d'un avertissement pour nous tous. Ce n'est pas pour dire qu'on serait au même niveau que Judas, dans le sens, son péché était le pire de toute l'histoire. Mais on peut encore faire beaucoup de mal avec juste une fraction de ce qu'a fait Judas. Et si vous commencez à vous poser la question, mais de qui il parle là? Est-ce qu'il a quelqu'un en tête? Justement non, parce que je ne sais pas de qui je parle. Je ne peux pas le savoir. J'espère vraiment que je ne parle de personne ici présent. Mais Jean nous donne clairement un avertissement ici. Surtout à la fin, en soulignant l'un des 12. Mais quelle que soit votre situation, il reste quelque chose à dire. Où que vous soyez, que vous fassiez partie du groupe qui ressemble aux Juifs, les religieux qui, dans le paragraphe précédent, qui rejetaient Jésus, ou que vous ressembliez plus à ces disciples semi-engagés, mais quand même un peu scandalisés par cette idée d'avoir Jésus comme sacrifice pour moi, cette idée de besoin absolu, infini à ce point-là, tenter de dire « j'arrête de marcher avec Jésus », ou que vous meniez une double vie dans ce genre de dureté de cœur, il n'est toujours pas trop tard de se repentir et de se rendre compte avec Pierre et les autres, il n'y a personne d'autre, et confesser que Jésus a les paroles de la vie éternelle. C'est une belle confession, n'est-ce pas ? Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Messie, celui qui est oint de Dieu et le Saint de Dieu. Une belle confession croquante. Là, c'est Pierre qui dit « On est prêt, Jésus. On est prêt à te manger, à recevoir ta vie, prêt à accepter que nous dépendons entièrement, 100% de toi pour la vie éternelle. Tu es notre seul espoir. » Et c'est ce même choix qui est devant nous ce matin, devant moi, devant chacun de nous. La question n'est pas « Est-ce que j'aime l'idée ?» qu'il fallait que Jésus se sacrifie pour moi. Mais est-ce que je crois Jésus lorsqu'il dit que j'en ai absolument besoin ? Ce n'est pas est-ce que je veux choisir certains éléments que j'aime chez Jésus, mais est-ce que je veux marcher avec lui ou est-ce que je veux le rejeter? Suis-je prêt à reconnaître qu'il n'y a nul autre comme lui? À quel autre irions-nous? Personne d'autre n'a véritablement les paroles de la vie éternelle. Il est le Christ, le Saint de Dieu. Et nous avons encore un avantage de plus. Nous savons que Jésus a accompli ce sacrifice sur la croix. Nous savons que son sacrifice a bel et bien ouvert la porte de la présence de Dieu. Nous savons qu'il est entré par cette porte parce qu'il est ressuscité. Il est bel et bien monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu. Nous avons vu qu'il est monté là où il était auparavant. On n'a pas à faire un pari ici. Les témoins nous assurent que c'est vrai. Dieu nous assure que c'est vrai dans sa parole. Les paroles de Jésus sont vraiment esprit et vie. Êtes-vous prêt alors de dire « Jésus-Christ, le Saint de Dieu, je viens à toi pour la vie. Je veux marcher avec toi. Je veux dépendre de toi entièrement. » Si c'est le cas, rendez-vous compte que c'est le Père qui vous a fait ce don de croire cela et de dire cela parce qu'il vous a donné le don de son Esprit qui vivifie. Et dans la joie de la vie éternelle, vivez donc en Jésus-Christ. Marchez avec lui. Il n'y a pas de neutralité possible ici. On ne peut pas choisir certains aspects de ce qu'il dit. Si on ne reçoit pas tout, on le rejette. On ne peut pas recevoir Jésus en partie et d'autres dieux, d'autres prophètes, d'autres intérêts à côté. C'est Jésus seul qui propose la vie éternelle. Il propose toute la vie éternelle, on n'a pas besoin d'autre. Mais je vous promets, en son nom, que Jésus a vraiment les paroles de la vie éternelle. Il est le Christ, le Saint de Dieu. S'il vous reste des questions, des soucis, venez me voir ou parler à Samuel aussi. Mais venez, marchez, mangez, croyez en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Prions. Notre Père céleste, nous croyons et nous connaissons que Jésus est le Christ, le Saint de Dieu. Nous te remercions d'avoir envoyé ce pain venu du ciel pour nous nourrir. Nous reconnaissons que ce n'est uniquement parce qu'il s'est sacrifié pour nous que nous pouvons profiter de la vie qu'il propose, que nous pouvons vivre avec toi. Merci pour le sacrifice de Jésus sur la croix en notre place. Mais nous te louons aussi parce que tu n'as pas voulu que le Saint de Dieu reste dans la tombe, mais tu l'as ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel, et donc il est retourné là où il était auparavant. Mais là maintenant, en tant que roi de gloire, il est là avec la victoire, le salut pour nous. Il est là pour nous représenter et pour nous accorder la vie. Donne-nous donc la foi de marcher avec Jésus, de dépendre de lui pour la vie éternelle. Aide-nous à être un soutien les uns pour les autres aussi. Aide-nous à nous aider les uns les autres à regarder Jésus, notre grand prêtre qui est assis à ta droite, l'agneau qui est là pour nous, le pain de vie qui est là pour nous, qui est venu pour nous. Aide-nous à vivre pour toi, à ta gloire. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.